L'édifice de cette morale casuistique repose sur trois piliers comme philanthropos. La loi, la liberté et la conscience. Il a pour clé de voûte l'idée d'obligation. Oui, c'est quand je vois la chose comme une obligation que je fais le lien. Alors, la première... Ouais, il pose d'abord l'une en face de l'autre, la loi et la liberté. Elles sont comme deux propriétaires qui se disputent le champ des actes humains. Ouais, il y a ma liberté, il y a la loi de Dieu. Quel acte je dois poser ? Eh bien, vous voyez, il y a une dispute et c'est la conscience qui va servir d'intermédiaire, de modérateur. La première caractéristique de cette morale sera donc la tension, l'antagonisme même qui règne entre la liberté et la loi. La conscience, elle, joue un rôle d'intermédiaire. Elle indique la loi et s'efforce de l'appliquer à la liberté. Sa fonction principale est de déterminer la limite séparant leurs domaines respectifs, de définir jusqu'où porte l'obligation morale. Voilà ce que tu dois faire, et puis pour le reste, ça te reste permis, vous voyez. Tu dois faire ce que tu ne dois pas faire, et puis le reste reste un champ neutre en plus. C'est intéressant parce que ça suppose aussi qu'il y aura des champs complètement neutres moralement. Cette science morale sera par conséquent marquée par un extrinsécisme foncier. Voilà, ça c'est le gros mot employé par le père Pinkers, extrinsécisme en morale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a, c'est ce qu'on a vu avec Nietzsche, hein, que les valeurs sont extrinsèques à la vie, que la loi est extérieure à la liberté. Vous comprenez ? C'est qu'il y a deux champs complètement distincts. D'un côté, le champ de la liberté individuelle. De l'autre, le champ de la loi, loi sociale, loi divine. Et je dois, parce que je ne suis pas seul, me plier, vous voyez, à cette loi, si je veux m'en sortir. Mais je m'y plie, vous voyez, je m'y soumets. C'est un peu la phrase, vous savez, ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Donc, je vois la liberté d'autrui comme ce qui marque un arrêt à ma liberté. D'accord ? Et à partir de là, je me dis, mais pourquoi ? Donc, je vais me soumettre à cet arrêt, ce coup d'arrêt mis à ma liberté, parce que je me dis, bah oui, mais parce que je dois mener une vie sociale. Vous voyez, si tout d'un coup, je commence à empiéter, l'autre peut empiéter aussi sur moi, je risque une mort violente, et puis... En même temps, j'ai envie qu'on m'aime bien, donc il faut bien que je me limite un peu. Si j'allais tout le temps partout débrailler, si je sautais sur toutes les femmes que je croise, bon, forcément. Donc je limite ma liberté pour qu'il y ait au moins une femme avec qui ça peut à peu près marcher. Même si c'était absolument libre, je sauterais sur toutes. Donc c'est un arrêt à ma liberté. La liberté, spontanément, elle irait, vous voyez, comme ça. Voyez. Et donc, ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Ben, ça, c'est de l'extrinsécisme. Ce serait quoi le contraire de l'extrinsécisme ? Ce serait de dire ma liberté commence où commence celle d'autrui. Parce qu'à ce moment-là, la relation à autrui serait conçue comme quelque chose vraiment qui relève de ma liberté, de ma nature propre. Si je dis ma liberté commence où commence celle d'autrui, ce qui est assez évident quand on veut avoir un enfant par exemple, ma liberté commence à faire ça. Ouais, c'est aussi l'autre chose, l'union fait la force. Ouais. Vous unissez à quelqu'un, vous voyez bien que vous avez plus de liberté, vous pouvez faire plus de choses. Pourquoi penser le rapport à autrui comme limitation, qui est un principe de l'individualisme, hein ? La liberté d'autrui me limitant, et non pas au contraire m'arrachant à une faiblesse, une limitation individuelle, justement. Donc, si vous dites « ma liberté commence avec celle d'autrui », vous êtes dans une pensée qui n'est pas extrinséciste. Mais si vous êtes dans la logique « ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui », vous êtes toujours dans cette idée que je vais m'arrêter à un endroit parce qu'il y a une loi et que cette loi me permet d'entrer en société, si vous voulez, ou d'avoir un rapport à Dieu. Donc voilà, c'est ça l'extrinsécisme. Le contraire d'extrinsèque, c'est... Voilà. Pas extra humide, c'est intrinsèque. Non, il ne marche pas. C'est intrinsèque, voilà. Vous voyez, qu'est-ce qui est dit ici? Voilà, les commandements et les défenses, les préceptes de la morale ne peuvent s'enraciner dans la liberté, ni éveiller en elle un écho profond. Aucune aspiration, aucun désir ne peut répondre à leur appel dans une liberté dont le principe premier est l'affirmation de son indétermination, de son indépendance fondamentale à l'égard de tout mouvement affectif, de son indifférence fondamentale. Parce qu'à partir de là, la liberté se présente comme pure capacité de choisir, de manière indifférente, si vous voulez. Elle est foncièrement indéterminée. La liberté, c'est l'indépendance, ici. Ce n'est pas la relation, justement, hein. C'est la dépendance. Vous savez, il y a ce paradoxe assez extraordinaire, c'est qu'on se croit plus libre quand on est amoureux. Plutôt qu'on est avec quelqu'un, alors que c'est une relation de dépendance profonde. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a un lien profond entre l'expérience de la liberté et la dépendance? Mais parce que ça nous apparaît comme une contradiction, simplement parce qu'on a posé la liberté en tant que pure indépendance. Mais ce n'est pas ça. La liberté, elle se déploie toujours dans une relation vitale. C'est ça ce qui est en jeu ici. Parce qu'elle se définit par l'affirmation de son indépendance, tel un absolu originel, la liberté d'indifférence ne peut reconnaître aucun lien naturel préalable à sa décision qui unirait l'homme aux autres hommes. Ceux-ci représenteront pour elle des libertés également indépendantes, constituant par elle-même une grave menace d'asservissement. La société sera donc formée par la juxtaposition d'individus qui défendent leur liberté les uns contre les autres et qui tentent toujours à se combattre. Elle ne pourra subsister que par un compromis, par un contrat social quelconque, dont le but premier sera encore l'affirmation de la liberté, sans chacun des individus qui composent la société soit dans leur hypostase étatique. L'individualisme qui est lié à la liberté d'indifférence est incontestablement une caractéristique de la morale casuistique. L'accomplissement du salut individuel, la recherche du mérite personnel, compris dans une perspective égocentrique, décrivent trop souvent l'horizon étroit où se meut sa considération. Cette morale a perdu le sens de la dimension sociale de l'homme. Ça, c'est un point fondamental. Vous savez, cette idée que, à partir de cela, vous voyez, je vais faire des choses, me limiter dans ma liberté, etc., pour gagner mon salut. Mais je suis déjà posé comme un pur individu, en concurrence avec d'autres individus, et même mon salut est une question où il faut que je sauve ma peau, je tire mon épingle du jeu. Ça n'a rien d'ecclésial, rien d'intrinsèquement social. Vous savez que l'individualisme contemporain est en grande partie un dérivé d'une certaine théologie du salut, je vous l'avais déjà suggéré, hein, c'est-à-dire l'idée que le salut, c'est un truc purement individuel. Que c'est moi face à Dieu, sans rapport avec d'autres. Mais vous remarquerez que ça n'est absolument pas vrai dans la Bible. Si vous prenez Noé, par exemple, vous voyez, Dieu veut sauver seulement Noé, mais pour sauver Noé, et du déluge, il y a sa femme, il y a ses enfants, et il y a même des animaux. Et les femmes de ses enfants. Bon, je ne sais pas si j'ai fait le bon ordre, mais... Et vous pouvez avoir un... Quand vous voyez le... Vous savez, souvent, on s'étonne, par exemple, du fait que autour, dans la famille même de Jésus, vous voyez, il y a autant de saints. Vous pouvez dire, voilà, la cousine Élisabeth, et Joseph, tout ça, on pourrait voir le truc. Si c'était un truc purement individuel, on aurait pu dire, voilà, Marie, elle était peut-être la seule sainte au milieu d'une bande d'ordures, quoi. Tout serait logique. Logique du salut individuel. Elle a dit oui. Ça la concerne qu'elle, après tout. Mais vous voyez bien que non, sa vie est tellement tissée avec la vie d'autres personnes que vous voyez, ça, son oui, il est en lien avec ses autres, vous voyez, et en même temps se répercute, se réverbère sur ses autres. Et c'est normal, hein, comprendre cette dimension profondément ecclésiale du salut, c'est très important, parce que c'est comprendre que l'homme n'est pas un pur individu posé comme ça, et que l'individualisme, soit dit en passant, l'individualisme vient d'une certaine construction sociale. Vous auriez tort, hein, de poser l'individualisme, vous savez, comme une sorte, la source de nos maux, parce qu'en fait, c'est le résultat d'une opération. Vous savez que ce qui s'est passé, c'est que l'individu a été pris comme un point de départ, en fait, dans les conceptions politiques modernes. Vous avez peut-être parlé avec Olivier Rey, d'ailleurs. Olivier Rey a dû vous dire que déjà, dans la logique, hein, du point de vue logique, l'individu est d'abord un terme et pas un point de départ. C'est le terme d'une opération. Vous voyez, vous divisez l'être en genre, et puis les genres eux-mêmes, vous les divisez en espèces. Les espèces elles-mêmes, vous divisez éventuellement en variétés. Enfin, en logique aristotélicienne, on arrive jusqu'à une espèce spécialissime. Et puis, elle-même, elle est constituée d'individus qui eux-mêmes ne peuvent plus être subdivisés, vous voyez. Bon. Mais surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que du point de vue existentiel, c'est un peu ce que je vous disais d'ailleurs à propos de Pindare, on devenait vraiment un individu au terme de l'existence. Et qu'est-ce que c'était l'honneur, la gloire, c'était se faire un nom. C'est à ce moment-là qu'on existait en tant qu'individualité, d'une certaine façon. Ce n'est pas un point de départ, l'individualité. Le chevalier combattait, et c'est à ce moment-là qu'il devenait un individu. Vous-même, vous êtes des héritiers, vous avez reçu un héritage, et vous êtes là aussi pour, avec cet héritage, non pas en le niant, en vous pensant comme un pur individu séparé de votre héritage, mais en l'assumant, l'ouvrir à des potentialités nouvelles. Et à ce moment-là, vous voyez, vous le faites accéder à cette individualité. Mais si vous posez tout de suite d'emblée comme un individu séparé de tout héritage, séparé de toute appartenance, ce qui se passe, c'est que vous êtes un clone, quoi. Vous n'avez plus rien qui vous caractérise concrètement. Et vous n'êtes même plus pris dans une aventure collective qui vous pousserait à poser des choses, vous voyez, belles et bonnes. Donc, il est certain que, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du moment où on s'est dit, on va construire une société, au lieu d'accepter une communauté qui avait des fondements naturels, la famille, voyez, le village, l'histoire, etc. On s'est dit qu'on allait faire un monde meilleur, parce que, vous voyez bien, la famille, tout ça, ça pose des tas de problèmes, etc. On allait construire un monde idéal. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, on a inventé la fiction de l'individu qui, par un contrat, constitue la société. C'est-à-dire que l'individualisme est le résultat d'une utopie politique et non pas le point de départ. C'est le résultat de l'idée d'une reconstruction de la société. Et je voudrais juste vous faire une remarque, hein. Dès que vous dites « Allez, arrêtez d'être individualiste, vous confondez l'individualisme et l'égoïsme. Hein. Soyez altruiste. » Vous êtes encore individualiste. Parce que vous pensez encore que le point de départ pour aller vers le bien, c'est l'individu et la bonne volonté de l'individu. Quand vous dites « il faut reconstruire une société meilleure », vous êtes encore individualiste, parce que vous pensez encore que la société est une construction faite par des individus. C'est difficile de sortir de l'anthropologie individualiste. Pour en sortir, il faudrait comprendre qu'il y a des choses qui, justement, ne dépendent pas de notre volonté individuelle, que nous avons reçues et qui nous relient les uns aux autres en dehors de notre volonté. C'est pas... Tout volontarisme est encore individualiste, si vous voulez. Et l'altruisme, l'appel à l'altruisme, se fonde encore sur une anthropologie individualiste. Il ne faudrait pas me dire « tu dois être altruiste », il faudrait me montrer comment ma vie est déjà tissée avec celle des autres. Parce que je parle, parce que je suis un fils, parce que je suis né dans un temps donné, avec, et donc embarqué avec d'autres dans la même histoire, voyez. Et ça, c'est des données naturelles, vous comprenez? Ce n'est pas une construction. Mais à partir du moment où on se dit « ah oui, tout ça, là, là, il faut s'en débarrasser parce que, voilà, il faut que les hommes aient plus de mobilité sociale, il faut qu'on puisse s'arracher aussi à l'emprise familiale, parce qu'il y a aussi une emprise familiale, parce qu'il y a aussi des choses. » Donc à ce moment-là, on va dire, bon, on est des individus, on fait un pacte social, on est entré en société, on invente cette fiction, mais qui est liée à l'idée de reconstruire la société. C'est l'utopie politique qui fonde l'individualisme. Et, non pas, et l'individualisme est une, peut être altruiste, hein, c'est une forme d'anthropologie qui vient, d'accord, de cette idée que la société, de cette idée de société. Vous avez appris avec Olivier Rey que la notion de société est précisément toujours l'idée d'un contrat ou d'une construction, hein, ce qui différencie la société de la communauté, hein, dans le langage classique. Dès qu'on pense la communauté humaine comme une société, on est persuadé que c'est des individus qui passent des contrats, quoi. Mais si on pense la communauté humaine pas simplement comme une société, mais comme aussi quelque chose qui est fondé sur un donné naturel, comme une communauté naturelle, à ce moment-là, vous voyez, on n'est pas simplement dans la pensée de la société, qui est la pensée moderne. Alors, je reviens à ce qui est dit là. Au fond, on va être dans une morale qui va être individualiste et ensuite dans une morale qui va être minimaliste. C'est la deuxième remarque de Pinkhars. C'est-à-dire que, d'une part, moi, comme individu, je vais limiter ma liberté parce qu'il faut bien que je mène une vie sociale, mais en même temps, je vais exiger de l'autre côté que la morale soit minimale. C'est-à-dire qu'il y ait le moins d'obligations possibles qu'on va réduire. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on va dire, par exemple, à partir de cette logique-là, on va dire « Ouais, regardez, le christianisme, il n'y a quasiment pas d'obligations, c'est pas comme les juifs, vous voyez ?» Vous avez plein de lois. Nous, on a un truc, c'est minimal, c'est aime et fais ce que tu veux. Vous connaissez ces trucs-là? C'est pas comme les... Mais c'est pas vrai. Si vous dites ça, vous voyez pas qu'au contraire, c'est nous, il nous est demandé notre cœur, c'est beaucoup plus radical que les juifs. Sinon, on voit pas comment ce sera un accomplissement. C'est-à-dire que tout d'un coup, Dieu nous demande moins. Et c'est ça qui est bien. C'est stupide. Parce que, vous voyez, on entend le « aime et fais ce que tu veux » comme morale minimale, et on en fait l'éloge parce qu'on dit « tiens, c'est conforme au minimalisme de cette morale-là, extrinsèciste. » C'est-à-dire, Dieu ne nous impose pas des tas de trucs. Il ne nous impose rien, il y a un tout petit truc, il nous demande juste « aime ». En plus, on se dit « ouais, super ». Mais non, Dieu nous demande notre cœur. Tout va y passer, hein. Tout va y passer, je veux dire, tout. Il y a pas, vous n'aurez pas un champ où il y a... si au final, vous pensez que vous allez vous préserver un petit champ, vous savez, puis vous allez laisser un petit truc pour Dieu, comme ça, vous êtes dans l'extrinsécisme, vous voyez, vous êtes dans cette morale-là. Morale de la négociation, vous savez, deux propriétaires, et puis moi, j'ai quand même mon petit truc à moi, et puis il y a ça quand même que je fais pour Dieu, quand même, hein. Je vais à la messe, je me confesse, je fais des trucs quand même. Et voilà, ça, c'est la vision courante de la morale. Et c'est bien ça qu'a vu Nietzsche. Il a dit, mais regardez, en fait, il y a quelque chose d'intrinsèquement pervers dans cette manière de voir. Alors pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher comme ça? Alors pour Dieu, c'est très simple, hein. Est-ce que ce que Dieu nous demande, il nous le demande de l'extérieur? Est-ce que Dieu nous impose quelque chose de l'extérieur? C'est ça ce que je veux dire. Parce que, ouais, s'il nous imposait quelque chose de l'extérieur, il serait comme une super créature qui s'impose à d'autres créatures. Mais il est le créateur. Donc il ne nous impose rien de l'extérieur. Avec Dieu, vous pouvez dire, non pas ses désirs sont des ordres, mais ses ordres sont des désirs. Ses ordres sont des désirs. Toute la loi divine, tout ce qu'explicite la loi divine, vient révéler ce qui est au fond de notre cœur et vient révéler le dynamisme propre de notre existence, puisqu'il est notre créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et tout ce qu'il dit, il ne le dit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il vient nous guider en nous révélant ce qui est le dynamisme propre de la vie qu'il a créée. Et donc, il n'y a aucun extrinsécisme possible. Vous voyez, ce n'est pas comme s'il imposait une loi du dehors qui s'imposait de l'extérieur à notre liberté. Notre liberté est justement constituée par cette loi. Cette loi est la fructification de notre liberté. Elle nous indique ce qui est la fructification de notre liberté. Donc, ce n'est pas de l'extérieur. Vous savez que... Il y a 10 commandements, comme on dit, hein. Exode 20, 10 paroles. En hébreu, il n'y a pas le mot commandement, c'est des paroles. Or, vous savez que dans la Genèse aussi, Dieu crée en 10 paroles. Et bien sûr, tous les exégètes font le rapport entre les deux. Il y a autant de paroles de création que de paroles dans la loi. Mais pourquoi ? Parce que la loi, elle est de l'ordre de la création, justement. Elle ne cherche pas du tout à écraser ou à diminuer, mais à libérer, vous voyez, l'élan même de la création en nous, et donc notre propre créativité, et donc notre propre déploiement de notre vie. Est-ce que c'est une limitation de dire « tu ne porteras pas de faux témoignages », par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous empêche d'être créatif. Oui. C'est pas. J'ai dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. C'est le père Yohanan, oui. De toute façon, quand dans un endroit il y a deux juifs, ils sont pas d'accord. Il faut le savoir. C'est ça qui nous plaît. Donc, si vous voulez entendre le contraire de ce que je dis, vous allez demander au père Yohanan. Mais, et vous aurez raison de l'écouter en plus. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, oui, honore ton père et ta mère, c'est pas naturel. Je suis pas encore dans la distinction du naturel et du surnaturel, si vous voulez. Mais je suis en train de vous dire, parce que le surnaturel, de toute façon, il ne va pas contredire la nature. Vous n'allez pas penser que le Dieu rédempteur est l'adversaire du Dieu créateur, vous êtes d'accord? Donc même si le surnaturel dépasse la nature, il révèle de toute façon des choses qui sont dans les profondeurs de la nature, qui ne sont pas contraires à la nature. Si on commence à penser que la grâce détruit la nature, c'est une catastrophe. Et on devient... on tombe dans des dérives terribles, c'est-à-dire, et ça a été souvent le cas. Hein. Vous savez, Thomas d'Aquin dit « la grâce ne détruit pas la nature, mais la soigne, la guérit et la surélève. » D'accord ? Et il va même jusqu'à dire « la gloire ne détruit pas la nature. » C'est-à-dire que, même au ciel, quand vous serez parfaitement divinisé, enfin ce que je vous souhaite, vous serez encore plus parfaitement humain. Gloire ne détruit pas la nature. Grande affirmation de saint Thomas. C'est qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait à partir d'un dynamisme qui est celui-là même de la création. Et que la loi ne va pas contre justement ce dynamisme de la création. C'est au contraire l'explicitation, l'articulation... bien sûr, extérieur dans son explicitation, c'est une parole qui vient à nous, on pourrait dire, mais elle vient réveiller un écho intérieur, quelque chose qui est au fond de nous. Et c'est pour cela que Thomas d'Aquin, lorsqu'il réfléchit en théologie morale, s'interroge sur ce qu'est une créature et quel peut être le bien de la créature en elle-même. Quel est le dynamisme d'une nature créée et pourquoi cette nature créée trouve son bien en Dieu? Mais c'est son dynamisme de créature. Ce n'est pas quelque chose qui est plaqué de l'extérieur. Donc quand Dieu vous interdit quelque chose, il vous interdit une impasse. Quand Dieu vous ordonne quelque chose, il vous ordonne une aventure, quelque chose qui est de l'ordre de la plus grande créativité. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Pourquoi est-ce que c'est être plus créatif? Parce que essayez de dire la vérité tout le temps sur toute chose, vous verrez, forcément, hein, si vous devez épouser toutes les nuances infinies du réel, voilà, vous serez inventif. Pour ce qui est de mentir, on dit toujours les mêmes conneries. Hein. C'est, rien n'est plus monotone que le mensonge. Hein. On cherche toujours à dire qu'on est des types bien. Enfin, vous voyez, si vous commencez à dire exactement ce que vous êtes, c'est-à-dire grotesque, mais dans tous les détails, vous voyez, de tout ce que vous êtes, c'est incroyable. Vous faites de la poésie. Vous faites de la poésie. Donc, vous voyez bien qu'il y a une sorte de liberté. Le même qui nous dit ces 10 paroles, vous voyez, pour nous recréer, c'est le même qui a créé le monde. C'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est aussi incroyable, ces commandements, ces 10 commandements, que l'existence de l'autruche, de l'oursin, c'est aussi fantaisiste, en fait. Voilà, ça nous fait entrer dans la même fantaisie que celle de la création. C'est ce qu'on doit comprendre. Dieu ne nous demande de renoncer qu'à ce qui nous détruit. Et bien sûr, on peut passer par le feu, on peut être éprouvé par le feu, mais au final, c'est pour l'or, vous voyez, qu'on est éprouvé. C'est toujours à l'intérieur d'un dynamisme profond et d'un plein déploiement de la vie en nous. Vous voyez, et c'est précisément ça qui fait que Pinkers répond à Nietzsche. Et montre comment Thomas d'Aquin répond à Nietzsche par avance. C'est-à-dire que Thomas d'Aquin n'a jamais pensé que le christianisme, c'était des valeurs qui s'imposaient à la vie. C'était au contraire l'explicitation de ce qu'est la vie elle-même et l'appel d'entrer dans le plein déploiement de ce qu'est la vie. Et ça change énormément par rapport à tout ce que le puritanisme a pu faire. Je vais vous donner un exemple, hein, qui est un exemple qui est l'enjeu, par exemple, de mon livre « La profondeur des sexes », qui s'inscrit exactement dans cette démarche morale. Vous pouvez, par exemple, vous représenter la sexualité comme une énergie neutre, un peu trouble. Et alors, cette sexualité qui est un peu trouble, il faudrait lui mettre de la morale pour la canaliser. D'accord ? Souvent présenté comme ça. Hein. Ils disent, oui, vous avez des trucs comme ça, faits par des cathos. Oui, le sexe, d'accord, mais il faut qu'il y ait de l'amour. Donc c'est par adjonction d'amour à la sexualité que la sexualité a un caractère positif. Sinon, c'est bestial. Mais vous voyez, quand vous parlez comme ça, vous êtes dans l'extrinsécisme. Parce que ce que vous devriez dire, c'est plutôt, la sexualité est bonne en elle-même, et la morale sexuelle de l'Église, c'est la vraie libération sexuelle. C'est la vraie libération sexuelle. La libération sexuelle, c'est pas de coucher avec une fille, avec une autre, etc. Vous voyez, ou à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez une petite jouissance à la friction des muqueuses? L'Église te dit, ah non, le sexe, vas-y, à fond, quoi, sans préservation. À fond. Et tu vas voir ce qui se passe. Ce qui se passe, vous rentrez dans un truc que vous n'aviez pas du tout imaginé, quoi. Vous allez vers une fille, tout d'un coup, vous avez un fils. Et pas qu'un fils, vous avez une belle-mère. Vous avez des nièces. Incroyable. Jamais gêné, vous rendez compte? Jamais. Ben c'est vrai, j'aurais pas eu Madeleine comme nièce si j'avais pas épousé Sifren, si j'avais pas été dans le sexe à fond, quoi. Madeleine est une... Enfin, la relation... La relation, je dirais, que j'ai à Madeleine, le fait que Madeleine fasse partie de l'aventure de mon existence est une conséquence de ma vie sexuelle. Ah, on peut le dire comme ça. Oui, bon. Non, mais c'est pour vous dire, le truc que vous n'aviez pas imaginé, l'aventure incroyable. Et l'Église vous dit, voilà, là vous entrez dans une fantaisie complètement folle, vous n'avez jamais imaginé ça. Vous, qu'est-ce que vous vouliez peut-être dans votre vision étroite? Vous croyez que c'était la liberté, mais en fait, c'est vous qui étiez en train de rétrécir des trucs. Coucher toujours avec des minettes mignonnes, stupides. Ça, c'est étroit, ça, c'est petit, quoi. Vous n'avez pas été, vous n'êtes pas entré dans cette aventure de la conjugalité, de la paternité, de la gendréité. Ouais, mais c'est ça que je parlais. Je ne sais pas s'il y a un mot pour dire ça, la gendrité. Bon. Et ça, c'est une aventure. Et puis même, vous rentrez tout d'un coup dans des choses que vous n'aviez pas imaginées, parce qu'avoir un enfant, tout d'un coup, vous êtes investi dans une responsabilité, dans un rapport au monde qui se modifie, qui est entièrement renouvelé. Vous n'êtes pas le petit prédateur, vous voyez, au milieu. Tout d'un coup, vous prenez conscience des enjeux de l'avenir, vous prenez conscience que vous-même, vous avez été un fils, et ce que vous devez à vos parents. Et tout d'un coup, vous voyez, là est la dilatation. Donc, ce que vous devez dire, ce n'est pas « l'amour vient canaliser la sexualité, l'amour vient... » Non, c'est que la sexualité est bonne, sans doute qu'elle a été blessée par le péché, mais la charité vient la guérir pour qu'elle soit vraiment elle-même. Pour libérer le dynamisme propre de la sexualité. Et là, vous voyez, c'est une manière de dire qui n'a plus rien à voir avec le petit puritanisme que vous entendez encore dans les trucs du clair ou de teen star ou de je ne sais quoi. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous... Vous connaissez ça, non? Vous connaissez? Non? Bon. Vous avez encore une vision dualiste, voyez, une sexualité un peu tout machin, il faut adjoindre quelque chose par-dessus qui viendrait de l'extérieur pour l'améliorer, voyez, la réalité augmentée, quoi. Mais non, c'est bon en soi. Mâle et femelle, il les créa, c'est bon en soi. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas une morale qui vient nous castrer, c'est au contraire ce qui nous castre. Alors, ce qui nous castre absolument, c'est ce qu'on a appelé la libération sexuelle. Ça, c'est une castration. Parce que de toute façon, vous voulez être incastrable parce que vous voulez pas avoir d'enfant. Vous saviez que les castrats, ils pouvaient avoir des érections, hein. Mais ils n'avaient plus de couilles. Ah, parce que je rappelle, hein, qu'avoir des couilles, c'est devenir père. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Mais c'est juste pour vous dire que... Ah, c'est passé la fin du cours. Hein. Vous savez, il y a toujours des dérapages à la fin. C'est juste pour vous dire, si je ne fais pas à la fin, enfin vraiment, j'en profite, quoi. Donc attends, je vais mettre mon carnet avec tous les mots grossiers que je dois dire. Non. Couille, je coche. Fait. Le prochain. Beat? Non. Bon, alors. Pardon? Oui, ça va, ça va. Non, mais... Franchement, Dieu n'est pas l'ennemi de ça, parce que, vous voyez, au départ, au Jardin d'Éden, on était nus, et notre nudité suffisait. On n'avait pas besoin d'icône de la Trinité. L'homme voyait la femme nue. C'était l'icône de la Trinité. Maintenant, ce n'est plus le cas, hein. Non, je vous rappelle, n'essayez pas, parce qu'il y a eu le péché entre, hein, donc il y a quand même un problème. Et ne croyez pas que parce que vous êtes baptisé, vous n'avez plus besoin de l'icône de la Trinité. Genre, mais ce que je veux vous dire, c'est que... Mais oui, parce que qu'est-ce qui se jouait? Vous voyez qu'il y avait l'ordination mutuelle des sexes, vous aviez tout d'un coup la manifestation d'un être par l'autre et pour l'autre, si vous voulez. Et donc, il y avait quelque chose qui renvoyait... Vous voyez, aux relations subsistantes de la Trinité, quelque chose qui en était un signe ici-bas, quoi. Mais maintenant que tout ça a été dévié, parce que nous sommes marqués par le péché originel, et ça c'est vrai, c'est que la sexualité a été blessée, que s'est mêlée à ça de l'impureté, et que quand un homme voit une femme nue, il ne pense pas tout de suite à la Trinité, vous voyez. Il a même tendance à vouloir en faire un objet de prédation, de jouissance, etc. Mais c'est contre cette petitesse, si vous voulez, que vient la morale sexuelle de l'Église, voyez, où elle vient nous faire violence sur certaines choses, mais cette violence est pour briser une autre violence, qui est celle du péché en nous, qui nous a rendus étroits. voyez, pour libérer cette contemplation de la merveille qu'est justement la sexualité. D'accord ? Donc, je voulais insister sur ce point, vous voyez, deviens ce que tu es, c'est vraiment penser une morale qui se fonde sur un dynamisme existentiel qui n'est pas imposé de l'extérieur, qui est plutôt une manière d'énoncer ce qui se joue à même la vie, dans le déploiement propre de la vie. Et c'est pour ça que ce que Nietzsche espérait ou ce que Nietzsche voyait dans le renversement de toutes les valeurs se joue précisément dans ce que saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote et de Cicéron, a essayé de penser comme morale. Et spécialement dans ce qu'est la morale, je dirais, biblique, où la rédemption est une récréation et la libération vraiment de la plus haute créativité humaine.